Nous sommes le 19 mai 1984 au studio CBS de Los Angeles. C'est un studio de télévision. On y voit un homme assis devant un pupitre. Il transpire, ses mains tremblent un petit peu, son regard est comme déconnecté. Et autour de lui, il y a du monde. Un animateur télé qui sourit pour l'encourager, un public qui l'applaudit, des caméras qui tournent. Personne ne le sait encore, mais dans les 45 prochaines minutes, cet homme va commettre le plus grand braquage en direct de l'histoire de la télévision américaine sans armes, évidemment sans complice. Sans avoir besoin de se lever de sa chaise, il va humilier un réseau de télévision national, il va forcer des producteurs à hurler de panique en régie et il va vider les comptes bancaires de CBS sous les yeux de millions de téléspectateurs. Le plus fou, c'est qu'il ne va pas tricher pour faire ça, pas une seule seconde. Et pourtant, il va devenir l'homme qui a tué le hasard. Alors vous allez me dire, Fabien, c'est impossible. Dans les jeux d'argent, la banque, elle gagne toujours. C'est mathématique, c'est un peu comme une loi et vous avez raison, c'est une loi. Mais regardez bien la vidéo en entier. Le titre, c'est pas un titre aguicheur, c'est vrai, c'est factuel. Ce jour-là, un homme au chômage avec zéro diplôme, zéro connexion, zéro privilège va trouver la faille que personne n'avait vue avant lui. Son nom, c'est Michael Larson. Et figurez-vous qu'il avait une arme secrète, un magnétoscope à 300$ et une obsession maladive. Quand j'ai découvert cette histoire et que j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai également découvert que l'émission dont je vous parle et dont vous allez voir des extraits est disponible entièrement aujourd'hui sur Internet parce qu'elle a été séquestrée pendant un moment et aujourd'hui on peut la voir en entier. J'ai regardé les 45 minutes 3 fois, tellement c'est fascinant. Michael a réussi à empocher 110 237$ en 1984. 110 237$, on va dire que ça fait à peu près 330 000$ aujourd'hui, en un seul après-midi. Mais l'histoire, vous allez voir, est tellement dingue qu'elle ne s'arrête pas là. Et parfois gagner, c'est la pire chose qui puisse arriver. Quand j'ai écrit cette vidéo et que je l'ai pitché à l'équipe, Loïc m'a dit « Mais ça va être quoi ta touche au-delà de l'histoire de ce gain sur un jeu télévisé ?» Ben pour une fois, aucune. Parce que ce que j'ai découvert, c'est une succession d'histoires incroyables dans la vie de Michael, de cet homme qui commence par celle-ci, celle du jeu où il a tué le hasard. Je vous assure que ces histoires cumulées sont bien suffisantes. À chaque conclusion, j'avais l'impression qu'il y avait un nouveau décor qui se dévoilait derrière Michael. Je vais vous raconter l'histoire vraie de l'homme qui a hacké la télévision, l'homme qui a prouvé qu'on pouvait tuer le hasard, et vous allez voir qu'il y a une raison pour laquelle cette histoire est restée cachée pendant 19 ans. Remontons quelques mois en arrière, novembre 1983, à Lebanon, dans l'Ohio. Michael Larson a alors 34 ans. Il est, comment dire, un perdant magnifique. Il a été conducteur de camions de glace pendant 12 ans et récemment, il s'est fait licencier. Il a 2 divorces au compteur, il a 3 enfants avec 3 femmes différentes, il a aucune économie et il vit chez sa compagne. De toute manière, il ne peut pas payer de loyer, elle s'appelle Teresa. Elle a une maison qui ressemble plus d'ailleurs à un dépôt qu'à un foyer. Ça, c'est la situation de base, mais Michael a une particularité, il est obsédé. Il a une obsession qui remonte à l'enfance, quand il était petit. Il vendait des barres chocolatées à l'école. Alors ça, vous allez me dire, Fabien, il n'y a rien d'inhabituel là-dedans. Oui, sauf que lui, il les achetait dans un magasin et les revendait au double du prix de son achat à ses camarades. Il avait 10 ans, il avait trouvé une petite faille. Plus tard, il en trouve une autre. Il comprend qu'on peut ouvrir un compte bancaire à la banque, toucher une sorte de prime de bienvenue de 500$, parce qu'il y avait une offre à l'époque un peu promotionnelle, fermer le compte et recommencer ailleurs sous une fausse identité. Bah ça, il l'a fait 10 fois. Il y a même une fois où il a créé une fausse entreprise, il s'est embauché lui-même et il s'est licencié pour toucher une sorte de chômage. Est-ce que vous comprenez un petit peu le personnage qu'est Michael Larson? C'est pas un travailleur, c'est une sorte de hacker de la vie, quoi, un hacker du système. Et pourtant, il peut déployer des efforts gigantesques, plus que s'il travaillait, pour obtenir quelque chose sans travailler selon lui. Il est convaincu que le monde est rempli de failles, de petits raccourcis, de petits patterns invisibles que les gens normaux sont trop paresseux peut-être pour voir. Mais le plus marrant, c'est que, encore une fois, lui peut fournir des efforts incroyables juste pour ne pas travailler. C'est très paradoxal, mais ça vous donne un peu une vision du personnage. Je vous propulse directement en novembre 1983, Michael a un nouveau projet. Il a rempli son salon de télévision. Je parle pas d'une ou deux télé, hein, je parle d'un mur entier de télévision. Il y a de toutes les tailles, du 19 pouces, du 25 pouces, ils sont tous allumés en même temps. Ils regardent tout, ils cherchent une faille. Une faille dans un jeu. Les concours radio, les jeux TV. Il y a tellement de jeux comme ça médiatiques qui promettent des gains qu'il se dit il y a quelque chose quand même à tirer dans un jeu, c'est sûr. Alors il cherche, il analyse, il attend. Il a déjà disséqué The Price Is Right, on le connaît en France, c'est le juste prix. Il a disséqué la version originale de La Roue de la Fortune, des jeux au pardi, rien. Il trouve pas de faille exploitable, c'est vraiment du hasard. Et un soir, il tombe dessus. Une nouvelle émission sur CBS qui s'appelle Press Your Luck. Je vous explique rapidement le concept de ce jeu télé. Dans un premier temps, il y a trois candidats, ils sont assis les uns à côté des autres, et ils vont commencer par répondre à des sortes de questions de culture générale, plus ou moins dures ou plus ou moins faciles. Ça va leur permettre de gagner ce qu'ils appellent des spins, des tours de roue, on va dire des tours de jeu. Ensuite, il y a une autre phase, ils font face au Big Board. C'est un tableau géant avec 18 cases qui s'illuminent à toute vitesse. Donc il y a leur image qui est au centre et tout autour d'eux, il y a des cases. Dans ces cases, on peut trouver de l'argent, des voyages, des cadeaux, des bonus aussi, par exemple de l'argent et un bonus qui permet de relancer le jeu, de relancer la roue, de refaire un spin. Et il y a aussi le Whammy. Alors le Whammy, c'est un petit diable rouge. Il est parfois animé pour agrémenter le jeu. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de ce jeu parce que si vous tombez dessus, vous perdez tout. Vous repartez à zéro, vous perdez toute votre cagnotte, c'est game over. C'est un principe de stop ou encore, on connaît ça dans les jeux de société par exemple, c'est très classique. En fait, tant que vous allez accumuler de l'argent et des cadeaux, c'est sûr et certain, mais vous risquez de tomber sur le whammy et donc vous devez décider quand est-ce que vous vous arrêtez avant que le hasard ne vous envoie un whammy. C'est conçu pour être impossible à battre. Okay, les lumières, elles clignent tellement vite que l'œil humain ne peut pas suivre le déplacement. C'est du hasard pur, c'est géré par un ordinateur. Cette dernière phrase, c'est ce que tout le monde pense vraiment. On y reviendra. Michael, lui, voit quelque chose et il n'y a que lui qui le voit. Je veux dire, ni les producteurs, ni les autres spectateurs ne l'ont vu. Il fixe le tableau un soir et bondit de sa chaise. Il est comme un enfant le matin de Noël. Il rembobine la cassette, il appuie sur pause et il montre l'écran à Teresa. Début des années 80, le magnétoscope, c'est une technologie assez nouvelle, très nouvelle. Surtout les magnétoscopes qui sont dotés de la fonction arrêt sur image. Alors il enregistre tous les épisodes de Press Your Luck tous les jours, religieusement, pendant 6 mois. Vous m'avez bien entendu, hein? 6 mois où il fait qu'une seule chose, regarder, rembobiner, mettre pause, avancer, image par image. Et il recommence, encore, encore. Des heures et des heures de visionnage, d'analyse. Et au bout de ces 6 mois, Michael identifie quelque chose d'incroyable. Le tableau n'est pas aléatoire. C'est-à-dire, il y a deux choses qui sont censées être aléatoires dans le tableau. Ce qui apparaît dans les cases, parce que ça clignote, donc ça change. Et ensuite, le sélecteur, qui lui aussi clignote et change de case au fur et à mesure. Eh bien ça, c'est pas fait au hasard. En réalité, la technologie informatique de l'époque avait ses limites. Donc créer un vrai hasard parfait, c'était très très complexe. Mais je veux dire, même encore aujourd'hui, quand vous demandez un nombre au hasard à un ordinateur entre 1 et 1 million, par exemple, il ne va pas réellement le générer au hasard, il va attribuer une formule mathématique quelconque où il va déterminer qu'il va prendre la décimale numéro de temps, par exemple, de cette formule mathématique pour vous l'offrir comme étant le fruit du hasard. Mais il y a un procédé, en fait, derrière. Il y a quelque chose qui permettrait d'anticiper la réponse de l'ordinateur. Et à l'époque, c'était encore plus complexe de générer du hasard. Alors les programmeurs ont créé une boucle. C'était le plus simple. Et cette boucle-là, elle n'est pas infinie. En fait, il y a 5 patterns différents qui forment des petites boucles comme ça qui s'enchaînent. 5 séquences différentes de lumière qui vont se répéter encore et encore dans un cycle prévisible. Si vous connaissez les patterns, si vous êtes capable de les reconnaître malgré le fait que ça aille très très vite, si votre timing est parfait au moment d'appuyer sur le buzzer, vous pouvez prédire où la lumière va s'arrêter. Et c'est pas la seule chose que va découvrir Michael. Lors de ses visionnages, il découvre mieux que ça. Il identifie 2 cases spécifiques sur le tableau, alors c'est la case numéro 4 et la case numéro 8, 2 cases qui ne contiennent jamais, 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 jamais de whammy. C'est un angle mort dans la programmation. Ça veut dire que s'il est très fort et qu'il reconnaît les patterns, il peut toujours tomber sur l'une de ces 2 cases. Donc, à minima, il ne perdra jamais sa cagnotte, il va juste consommer ses spins. Mais si en plus il est très très bon, il peut activer ces cases-là quand elles ont un gain plus un spin de relance gratuit. En gros, c'est comme si dans la case, parfois, il y avait marqué 1 000 $ plus rejouer. Parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas encore dit, mais le plus incroyable, c'est que dans le deuxième round du jeu, ces cases contiennent toujours, toujours une combinaison magique, hein, de l'argent et un spin supplémentaire, mais que dans le deuxième round. Est-ce que vous comprenez que si vous êtes capable de viser ces 2 cases à chaque fois, vous pouvez jouer éternellement, vous pouvez gagner de l'argent tout le temps, éternellement dans le jeu, puisqu'à chaque fois vous gagnez un nouveau tour de jeu, vous recommencez, vous ne perdez jamais, vous ne passez jamais la main. Théoriquement, il n'y a pas de limite. Si ce n'est peut-être la fatigue humaine qui va faire que vous allez moins bien viser après au moment du buzz. Parce que là, il faut de la précision. Hein. On parle de la théorie, c'est une chose, l'exécution, c'en est une autre. Michael doit synchroniser ses réflexes avec une précision du dixième de seconde. Un centième trop tôt ou trop tard, et c'est raté. Alors il va s'entraîner devant sa télé, avec un buzzer imaginaire, hein, il a rien, pendant des heures, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature, un réflexe. C'est-à-dire que quand ses yeux, avant même son conscient, capte que les cases sont OK et que c'est dans le bon pattern et que la lumière est à tel endroit, il sait qu'en appuyant, paf, ça va enclencher la bonne case avec le bon bonus dedans. Il le fait tellement que ça devient un réflexe, quoi, une mémoire musculaire chez lui. Il ne réfléchit plus, il voit le pattern, paf, il réagit. En mai 1984, Michael est prêt. Il prend ses dernières économies, littéralement les dernières, hein, il n'a plus rien après. Il achète un billet de bus pour la Californie. Il va traverser tout le pays, acheter une petite chemise dans une friperie pour 65 cents, c'est tout ce qu'il peut se permettre, et il se présente aux auditions de Press Your Luck. Là, il a joué le rôle de sa vie. Il faut qu'il soit pris, sinon il a fait tout ça pour rien. Et lors de l'audition, il va tout faire pour être le candidat parfait et l'acteur parfait. Il raconte une histoire d'un pauvre type au chômage, il dit qu'il est venu en bus par amour du jeu avec ses dernières économies, qu'il n'a pas pu offrir de cadeau d'anniversaire à sa fille de 6 ans, qu'il a acheté sa chemise dans une friperie au bas de la rue pour être un peu présentable. Alors tout ça, on est d'accord, c'est vrai. Mais tout ça, c'est aussi une performance calculée pour attirer les faveurs des recruteurs. En parlant de ça, Bobby Edwards, le coordinateur des candidats, n'est pas très convaincu par ce gars. Il trouve que Michael a un regard étrange. Lui, il dit qu'il sent que quelque chose ne va pas. Donc il recommande officiellement, il y a des traces de ça, de ne pas le prendre comme candidat. Mais Bill Carruthers, le producteur exécutif de l'émission, trouve au contraire que Michael est touchant, donc c'est bien pour le public. Bill Carruthers ne le sait pas encore, mais il vient de signer pour le pire cauchemar de sa carrière. Le cauchemar commence le 19 mai 1984. Michael Larson est assis à son pupitre. Il a d'un côté Ed Lang, un pasteur baptiste de Californie, de l'autre côté Jenny Litras, une assistante dentaire, deux gens très gentils, très souriants, innocents. D'ailleurs, si vous regardez l'émission, que j'essaierai de vous mettre en lien dans la description, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus innocents et souriants que Michael, qui est un peu plus concentré en vrai. Il a le regard fixe.
Fabien, vous avez dit que cette vidéo serait pleine de surprises, et ben manifestement, il s'est pas trompé. Alors à cause d'un petit souci technique sur le tournage, la suite du rush, on l'a pas. Donc c'est moi, Loïc, le monteur de la vidéo, qui vais prendre le relais pour la suite de l'histoire. Vous inquiétez pas, Fabien revient dans un instant. Le jeu commence. Première manche, des questions de culture générale. Alors le but est simple, c'est gagner des spins. Alors je sais, Fabien en a parlé tout à l'heure au début de la vidéo, mais un petit rappel rapide, les spins, c'est en quelque sorte des cartes rejouées que les candidats ils vont utiliser ensuite sur le big board. Et bon, vous allez vite comprendre. Sur cette première manche de questions, Michael répond correctement, sans briller, il fait le job, quoi. Ed et Jenny, les deux autres candidats, ça va un peu mieux. C'est Jenny qui gagne, qui a le plus de spins. À ce stade, Michael il ressemble à un candidat parfaitement banal. Après la culture générale, on passe au big board, première manche. Et c'est Michael qui commence parce qu'il a obtenu le plus petit nombre de spins. C'est la règle, celui qui a le plus petit nombre de spins commence sur le big board. Le tableau s'active, les cases s'illuminent et... Et ouais, un whammy. Michael ne cesse pas à battre, il relance et là, ça gagne. $1250. Il relance, encore $1250. Il a plus de spins, il termine la manche avec $2500. Les deux autres candidats montent un peu plus haut, $4080 pour Ed et $4608 pour Jenny. Rien d'anormal toujours, la partie suit son cours. Ok, deuxième manche de questions de culture générale. Cette fois-ci, Michael la gagne. On repasse sur le big board, mais cette fois, l'ordre est plus déterminé par le nombre de spins, mais par la cagnotte. Le candidat qui a le montant le plus bas commence, et c'est Michael. C'est reparti. Il a 7 spins, et c'est là qu'il va falloir vous accrocher. Michael fixe le tableau, la main suspendue au-dessus du buzzer, la lumière défile, il appuie. Case numéro 4, $4000 plus un spin. C'est pas mal. Deuxième spin, encore un gain. Et encore un spin. Troisième, pareil, Michael ne s'arrête pas, il est lancé. Et c'est là que quelque chose se met en place, une sorte de mécanique. Case après case, Michael il évite systématiquement les zones dangereuses. Il vise des cases qu'il a identifiées comme sûres. La plupart du temps, c'est la 4 et la 8, des cases qui offrent de l'argent et très souvent avec un spin supplémentaire. Parfois, ça peut changer quand le pattern ne correspond pas exactement. Du coup, on peut se poser une question. On peut même y revenir, le premier raté, le premier whammy, quand il se trompe la première manche. On peut se demander si ce premier spin n'était pas une sorte de spin d'étalonnage. Michael, il l'avait jamais fait en conditions réelles, il s'était entraîné chez lui, devant sa télé, avec un faux buzzer. Mais là, c'est différent, là, c'est le jeu. Faut faire pour de vrai, dans des conditions assez stressantes, les caméras, le public, le présentateur. Et du coup, à ce moment-là, il appuie et rate. Pas de beaucoup. Juste un tout petit peu trop tôt, ou trop tard, le timing est pas bon. Mais du coup, ce raté, ça doit lui donner une information. Parce qu'à partir de là, tout change. Là, il sait quand appuyer. Il sait quand y aller. Et il va vraiment y aller. Et le présentateur, d'habitude, il est plutôt enjoué. Il encourage les gens à continuer à jouer, à continuer à relancer. Là, il se demande ce qui se passe. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Genre en coulisses, en régie, Fabien.
En régie, ils appellent le service juridique de CBS. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête l'enregistrement ? Ils peuvent pas, il y a un règlement, hein. Il y a des lois qui encadrent les jeux télévisés où il y a des gains d'argent. Et là, il n'y a pas de triche visible, juste il y a un gars qui appuie sur un bouton. S'ils arrêtent sans preuve, c'est un scandale national et ils perdront sûrement un procès. Ils sont otages de leur jeu. Par contre, sur le plateau, on a toujours Michael dans un état second. Il a identifié ses petits cycles, il compte mentalement. Il frappe, encore. Là, on est à 80 000 dollars, ça fait 30 minutes. Qui joue sans interruption et qui gagne à chaque coup. Je ne sais pas si on arrive à imaginer la tension des producteurs de ce jeu. C'est un stop ou encore, quoi. Les gens ils s'arrêtent au bout d'une ou deux minutes et s'ils ne s'arrêtent pas, ils perdent. Quoi. Ça fait 30 minutes qu'il encaisse la tension nerveuse et extrême. Même Michael dira plus tard, l'effort mental était terrible, j'étais mentalement épuisé. Et à un moment, il fait une erreur. C'est la fatigue, hein, c'est la pression, ses réflexes diminuent. Donc il tape une fraction de seconde trop tard, et là, la lumière dépasse la case argentée, tout le monde retient son souffle, le whammy est juste à côté, la lumière atterrit sur un voyage aux Bahamas. Donc ça va, pas de whammy, mais il est chaud. Michael en profite pour prendre connaissance de ses gains, c'est encore une fois énorme, d'habitude les gens repartent quand ils sont bons avec 4-5 000 dollars, quoi. Il a aussi gagné des voyages, il a gagné un voilier, il a fait 47 spins, 47 tours quasiment parfaits. Michael regarde l'animateur, il sourit et dit « je m'arrête ». Il est malin. Il a vu qu'il a eu une seule faiblesse dans un réflexe, il s'arrête direct. Ça, c'est très malin, parce que souvent, les personnes qui ont des techniques de triche ou qui ont identifié comme ça des systèmes, c'est parce qu'ils continuent trop longtemps qu'ils se font avoir. Il s'est arrêté juste à temps. Il lève les bras au ciel, le public, mais explose de joie, c'est de l'hystérie pure, les gens sont debout, ils crient, ils n'ont jamais rien vu de tel, tu m'étonnes. Total final, si on prend en compte les bonus, il a fait 110 237 dollars de gains. Quand les caméras se coupent, l'ambiance par contre elle est glaciale, on ne lui donne pas son chèque. La production ne le paie pas, au contraire elle va l'isoler, ils sont convaincus qu'il a triché, ils pensent qu'il a un complice dans le public, un aimant, peut-être un dispositif électronique qui fait que ça s'arrête de tourner au bon endroit, ils vont tout fouiller. Ils vont analyser la machine, il n'y a rien, évidemment, il n'y a rien. Ils visionnent la bande au ralenti, image par image, et là, ils comprennent. Ils voient les yeux de Michael, ils voient sa concentration, et ils voient qu'il tape toujours au millième de seconde près, au même endroit. C'est-à-dire qu'Aïe, pour la première fois, il voit les patterns, il réalise avec horreur que la machine aléatoire ne l'était pas du tout. Michael Larson n'a pas triché, il a juste été malin. CBS est humilié, mais légalement, ils sont obligés de le payer. Et l'histoire pourrait s'arrêter là. Le petit gars qui bat un système, qui rentre chez lui, il est riche, happy end, générique. Mais vous êtes sur un all thread, je vous l'ai annoncé, dans la vraie vie, les happy ends, elles sont rares. Mais avec Michael, c'est une déferlante. Il rentre dans l'Ohio, il paie 30 000 dollars de taxes, il lui reste environ 80 000 dollars, il est riche, il est célèbre localement. Mais l'argent facile a une odeur, et Michael a toujours cette mentalité du hacker de système. Alors il ne va pas placer son argent sagement. Il ne va pas s'acheter une maison tranquille pour sa famille, pour Teresa et lui. Non ! Il va se lancer dans une nouvelle combine. Michael rentre chez lui et entend parler d'un concours sur une radio locale. Je vous explique le principe. Ce mec-là, il n'est pas bien. Le principe, c'est que si vous avez un billet d'un dollar, dont le numéro de série correspond au numéro que la personne donne à la radio. Donc elle donne un numéro de série complètement fictif. Si vous avez un billet de 1$ qui a ce numéro de série-là, vous gagnez 30 000$ directement. Encore une fois, à l'époque, c'est un peu comme 100 000$ aujourd'hui, quoi. C'est beaucoup d'argent. Alors la plupart des gens, ils font quoi quand ils entendent ça à la radio? Ils regardent dans leur poche, ils regardent les billets qu'ils ont de 1$, et voilà, c'est tout. Pas Michael. Michael va à la banque. Michael retire tout son argent. Il retire tout en billets de 1$. Il se retrouve chez lui avec des sacs poubelles et des sacs en toile de jute remplis de billets de 1$. Il passe ses journées avec Teresa à trier des milliers de billets en cherchant le numéro gagnant. Mais il n'est même pas sûr de l'avoir. Et en plus de ça, il devient paranoïaque. Il a peur qu'on le vole. Ironie du sort, c'est ce qui va se passer. C'est exactement ce qui arrive. Un soir avec Teresa, ils vont à une fête de Noël. Quand ils rentrent chez eux, la porte est fracturée. Il n'y a plus de billets. Alors, les voisins savaient qu'il y avait du cash. Peut-être que quelqu'un a parlé, tout simplement. On n'a jamais su qui a fait le coup. Michael accuse Teresa d'être impliquée. Ça ne va pas aider leur relation qui va se dégrader. Et elle termine par le quitter. Michael est ruiné encore. Et c'est pas fini. Mais déjà, on fait une pause là, juste vous et moi. Ce gars-là, il a retourné l'émission Press the Luck. Avec une préparation, on dirait un petit peu quand même la Casa des Papel, ok? Avec tout cet argent, il a réessayé de faire, non pas une arnaque légale, on va dire, parce qu'il a tout à fait le droit de consulter 100 000 billets de 1$. Il va se les faire voler. Il repart à zéro. Même en dessous de zéro, parce qu'en plus, sa femme l'a quitté, enfin, sa compagne, du moins, l'a quitté entre-temps. Mais ça ne s'arrête pas là. Vraiment, il ne peut pas s'arrêter. Et en 1995, il se lance dans une pyramide de Ponzi géante. Dans un système pyramidal. Je vous avais fait une vidéo il y a longtemps sur le sujet. Je vous la mettrai aussi en description si vous êtes sur YouTube. Vous pourrez aller la voir directement. Alors lui, il lance un truc comme ça. Son truc, c'est une société fictive qui s'appelle Pleasure Time Inc. et qui vend des parts dans une loterie amérindienne qui n'existe pas non plus, ok? Il réussit à arnaquer 14 000 personnes. 14 000! Il va récolter 1,8 million de dollars. Alors cette fois, c'est pas un jeu télé, par contre. C'est le FBI et la SEC qui sont à ses trousses. Michael va prendre la fuite. Il va quitter l'Ohio. Il change de nom. Il s'installe à Apopka, en Floride, sous une fausse identité. L'homme qui avait brillé sous les projecteurs de CBS, qui a fait son petit délire avec la radio, vit maintenant dans l'ombre. Il est traqué seul. Sa famille ne sait pas où il est. C'est un scénario redoutable. Je vous assure que quand j'ai commencé mes recherches, j'avais du mal à y croire. Il a fallu que je croise plein de sources pour voir tout ça et voir que c'était vrai. Et en 1999, Michael va commencer à avoir des problèmes de santé, un cancer de la gorge pour être précis. Il est trop malade pour continuer sa cavale et à se cacher. Mais il est trop recherché pour demander de l'aide. Le 16 février 1999, Michael Larson meurt dans un hôpital de Floride. Il y est entré sous une fausse identité. Il avait 49 ans. Jusqu'à son dernier souffle, il a continué de croire qu'il pouvait battre le système. Alors on fait quoi de cette histoire? D'un côté, on a un petit peu envie d'applaudir Michael Larson. C'est la preuve que si on regarde assez attentivement, on peut trouver des opportunités là où les autres ne voient que du chaos. Hein, il a prouvé qu'on pouvait tuer le hasard. Mais d'un autre côté, bah on a vu qu'il n'a pas hésité à arnaquer des gens. 14 000 personnes quand même, c'est pas rien. C'est pas quelque chose d'acceptable, de tolérable. Là, on ne peut plus l'applaudir de ça. En plus, son obsession d'essayer de trouver des failles, ça l'a détruit. Il a traité la vie comme il a traité le billboard. Il a cherché des raccourcis. Il a refusé les règles communes en pensant qu'il était plus malin que tout le monde. Et il s'est perdu là-dedans. Alors, j'avais commencé à vous le dire tout à l'heure, les épisodes de Michael Larson de Press Your Luck ont été si embarrassants que CBS les a cachés pendant 19 ans, interdits de rediffusion. Mais en 2003, Game Show Network a obtenu le droit de les diffuser dans un documentaire spécial. Et figurez-vous que ce documentaire a battu tous les records d'audience de la chaîne. C'est-à-dire que même en l'absence maintenant de Michael, il continue à se passer des dingueries encore derrière dans son histoire. Ça a battu tous les records d'audience de la chaîne. Je le répète parce que c'est quand même pas rien. C'est devenu le programme le plus regardé de leur histoire. Un record qui a tenu 9 ans. Durant 9 ans, il n'y a pas eu plus forte audience que ça. Et aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on peut retrouver la vidéo entière de l'émission sur YouTube. Et en 2024, l'année dernière, il y a un film complet qui est sorti sur lui, que j'ai découvert à la fin de mes recherches, aussi incroyable que ça paraît. Je ne l'ai pas encore vu, parce que comme tous les films, c'est romancé, je ne voulais pas me perturber dans la préparation de cette vidéo, mais c'est sûr que je vais le regarder à un moment donné. Mais comme quoi, quand on regarde bien, des fois, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Par exemple, regardez, peut-être que vous n'êtes pas abonné à mon compte et peut-être vous pouvez suivre mon travail très facilement d'un simple clic si ce genre de vidéo vous intéresse évidemment. Et dans la vie, je fais pas que des vidéos, j'écris des livres, alors des livres parfois de savoir comme ce livre sur le temps qui s'appelle « Ce livre vous fera gagner du temps », c'est mon deuxième livre sur le temps après « Votre temps est infini » qui est sorti cette année. Ça parle de la perception du temps par notre cerveau. Et j'ai écrit aussi toute une saga de romans interactifs. C'est un peu comme les livres dont vous êtes le héros, qui s'appelle « La saga de Dagda », dont le tome 3 vient de sortir. Ça s'appelle « Les entrailles du temps », mais c'est complètement indépendant. Les trois livres peuvent se faire en toute indépendance des uns des autres. Il suffit d'avoir le livre, un crayon et un dé, parce qu'encore une fois, c'est interactif. Vous allez prendre des décisions dans le livre. Il y a du hasard que vous ne pourrez pas battre comme Michael. Des fois, vous devrez supporter les conséquences de vos choix parce que vos choix transforment l'histoire. Le hasard aussi transforme l'histoire, vous verrez ça. Mais si vous voulez les lire dans l'ordre, c'est encore mieux. Donc c'est la Harpe des quatre saisons, suivi de la confrérie de Nuada, suivi des entrailles du temps. Il y a même une extension, comme pour les jeux vidéo, qui s'appelle le Royaume des ombres. Évidemment, je vous le recommande parce que vous allez vivre quelque chose de très particulier et je vous en parle aussi parce que ça peut être glissé au pied du sapin de 11-12 ans jusqu'à 70 ans. À la base, c'est écrit pour un public adulte, mais ça va très bien aussi pour des enfants à partir de 11, 12, 13 ans. J'ai prévu des modes de lecture qui permettent d'alléger la complexité, d'éviter les combats quand il y a des combats dans le livre, et j'ai mis en place un site internet. Quand on est bloqué par une énigme, il y a tout de suite la solution. Tout ça, c'est mon vrai travail. J'ai écrit 13 livres dans ma vie. Ils sont disponibles chez les libraires, dans les grandes enseignes habituelles comme la Fnac, Cultura, Amazon, etc., etc. Même si on essaie de soutenir avant tout les libraires indépendants. Je m'appelle toujours Fabien Licard. À très bientôt. Ciao.